Le scénario de cette campagne est largement inspiré des romans de fantasy et des séries qui m'ont fait vibrer plus jeune et moins jeune. Donc, pour un public mature, vous êtes averti. Ouais, ouais, même toi, là, qui se gratte l'intérieur du nez dans le fond, là, je t'ai vu. Bonne écoute. Je suis Des Sang-Froid, Eric, et je m'amuse avec toutes ces belles personnes qui vont se présenter à vous.
Je suis NJ, et je vais interpréter Solomon, le frère commandant de l'Ordre de la Ronde Hache, et simple pion sur l'échiquier des rois de Babel.
Alors, je m'appelle Andréane, je serai Ygritte, une femme aussi sauvage que la meute de loups dans laquelle elle a grandi, à l'image des armes de guerre de Babel, froide, solide et difficile à manier.
Je suis Christophe de la chaîne Pilule Rouge JDR et l'interprète du père Guilhem de Basquerbourg. Du moins, ce qu'il en reste, car maintenant je suis autre chose. Je suis noirceurs et corruption, prisonnier de ma propre chair. Que les défunts me viennent en aide.
Je m'appelle Danny, alias Radburger, et j'incarne Cal Shadim, capitaine dans l'armée Mézoène. Je n'ai qu'un seul but, c'est de protéger les êtres chers, malgré qu'il n'en reste plus beaucoup. Mais ma rencontre avec un enténébreur, ces magiciens profanes, a tout remis en question. Maintenant, je ne peux me fier qu'à une seule chose, ce sont mes fidèles cimetières.
Moi c'est Thomas, je vais interpréter Kenan Karaman, fils de Beryn Karaman. Je n'ai rien préparé en fait, d'ailleurs je ne savais même pas comment présenter mon personnage en une ligne. C'est un personnage tellement intéressant et abouti qu'il ne pourrait se résumer en seulement une ligne. Désolé pour les autres.
Les terres de Babel, l'an de grâce 3015 du deuxième cycle. Un monde sauvage, autant au cœur de la nature que dans le cœur des femmes et des hommes qui vivent au milieu des jungles que sont les cités. Un monde que tout divise de par ses religions, ses langues, ses us et coutumes, et ses rois cupides, dévorés par la fièvre du pouvoir qui s'empêtre dans les complots et les trahisons. Une terre cruelle qui forge des êtres tout aussi impitoyables qui, dans leurs veines, coulent le sang, le feu et l'acier. En ce lieu, l'amitié et l'amour sont d'autant plus précieux. Laissez-moi vous raconter l'histoire de celles et ceux qui y survivent assez longtemps pour que leur nom soit chanté et qu'il soit gravé à jamais dans les Chroniques de Babel.
Précédemment, dans les Chroniques de Babel. L'esprit torturé, le capitaine Cal Shadim s'est rendu à la villa de son frère d'armes, Beryn Karaman. Torturé car le roi lui a demandé de tuer Beryn. Dans la villa, Cal a découvert le corps sans vie de son frère, une dague richement décorée plongée dans le ventre. Cherchant son filleul, Kenan Karaman, Cal déboule chez le principal précepteur du garçon, le vieux Zifa. Le vieil homme ne sait pas où se trouve Kenan, mais il promet de le rechercher de son côté. Sortant de la maison du vieil homme, Cal lit la lettre qu'il a trouvée aux côtés du corps de Beryn. Son frère n'a pas été assassiné. Il s'est enlevé la vie. Deux demandes dans son testament. Tuer le vieux Zifa, qui aurait corrompu l'âme de Kenan en l'initiant à la ténèbre, la magie, et veiller à ce que Kenan soit guidé par le frère commandant Solomon pour apprendre à évoluer avec ses nouveaux dons. De son côté, Kenan a fait la connaissance d'Ygritte, une farouche guerrière guanac venue du Nord. Luttant dans des combats clandestins pour gagner sa pitance, la jeune femme est à la recherche du frère commandant Solomon pour se réconcilier avec son passé. Ensemble, ils découvriront le corps de Beryn. Devant la mort de son père, Kenan s'est effondré, d'autant plus qu'il reconnaît la dague qui l'a tué, celle de son précepteur, Zifa.
Chapitre 1. Trois fantômes du passé.
Notre épisode commence avec un écran noir et un lettrage blanc qui va rapidement disparaître. Mais on a eu le temps de lire « À 2 heures à cheval de la cité de Nippur ». On pourrait penser que l'épisode commence sur un écran noir, mais peu à peu, on aperçoit des étoiles, ici et là, mouchetées, l'obscurité d'un ciel couleur d'encre. Cependant, la pâleur en bas de l'écran laisse à penser que le souvenir du jour remonte à quelques minutes à peine. La caméra pivote légèrement sur elle-même et un croissant de lune souriant s'ajoute au décor, ainsi qu'un fond sonore, le ressac de la mer qui s'échine à repousser en vain la brute rocheuse de la côte dans un mugissement perpétuel qui se mélange aux rares cris des mouettes. La caméra pointe maintenant vers le sol, et l'on devine les contours de ce qui fut jadis un splendide colisée où des gladiateurs s'affrontaient pour la gloire et l'or. Sous l'éclairage argenté de cette demi-lune, le sable de l'arène s'électrise dans un aspect bleuté. Mais c'est l'intérieur des restes du bâtiment qui nous intéresse, et la caméra s'y dirige promptement, zigzaguant dans le dédale de corridors qui révèlent des pièces vides, sauf deux. L'une où cinq gardes jouent au dé, et plus loin, une minuscule cellule à la porte bardée de barreaux de fer. Dans la pièce, une silhouette est assise à même le sol, le dos au mur, immobile comme les rochers de bord de mer. Nous allons aller chercher l'image du frère commandant Solomon. Solomon, on te voit enfin, on te revoit enfin dans notre série. Dis-moi, Elle est lointaine, l'image du fier frère commandant de l'arrondage, celui que les gens du Dominion considéraient comme la relève militaire du royaume, déjà élevé au rang de héros à l'âge de 19 ans. Que fais-tu alors que le soleil n'est plus?
Il n'y a pas grand-chose à faire dans ma cellule, hein, à part méditer. Et Solomon, comme bien des gens qui vivent reclus pendant plusieurs années, a commencé à avoir cette habitude-là de parler à des gens qui sont pas là. Un peu comme des amis imaginaires, mais pour Solomon, il parle aux défunts, ce qui est sa religion de naissance. Dans le Dominion, on croit que les morts sont là parmi nous et on croit en eux. Et là, Solomon, dans le fond, parle aux défunts qu'a eu dans sa vie, ses frères d'armes tombés, ce genre de choses-là. Et on voit un Solomon qui a une conversation, mais que personne voit. Donc, probablement que les gardes et tout le monde qui l'ont vu dans cet état-là pense qu'il est complètement devenu fou, mais c'est pas tout à fait le cas, en tout cas pas encore.
Et ça doit rassurer les gardes, parce que ta notoriété de guerrier n'était plus à faire, et t'entendre murmurer ainsi nuit comme de jour, ben ça, le fait de veiller sur un fou, ben c'est une position très très enviable pour eux, à tout du moins très sécuritaire.
Oui, et surtout que Solomon ne fait pas de problème dans sa prison. Et il faut mentionner aussi que je porte toujours des menottes, hein, qui m'empêchent d'utiliser la ténèbre. Donc, je peux pas utiliser aucun de mes sorts. Je suis vraiment à la merci de ma cage.
Alors que tu es là à faire à balbutier tout seul, tu entends des pas qui se rapprochent. Et bientôt, ben, t'as une large silhouette qui comble l'espace de la porte faite de barreaux.
Oh, par Nergal, c'était donc vrai? Vous êtes vivant, frère commandant Solomon? J'avais tant espéré sans vraiment trop y croire. J'ai dû faire miroiter beaucoup de pièces d'or pour me retrouver ici.
Cette voix, tu la reconnais. Elle sort tout droit de ton passé. C'est celle du vizir de la cité d'Ur, Aruandi. Ur, cette ville misoéenne que tu as occupée avec tes troupes pendant 2 mois, il y a 4 ans. Qu'est-ce que tu ressens à la vue de cet homme qui est tout près des barreaux?
Probablement que je me sens un peu misérable, hein, Solomon. Il sent misérable d'être vu comme ça, assis dans sa merde, hein, et alors qu'il y avait une position importante, surtout par rapport à Rwandi, mais lorsqu'il le voit, ce qu'il se rappelle surtout, c'est sa fille, qui était tombé malade pendant le siège, qui avait attrapé une maladie grave et que Solomon avait tout fait avec Sœur Kenan pour sauver. Donc, lorsqu'il le voit, Solomon se redresse, se met debout et s'approche des barreaux, se redressant, essayant de regagner un peu de fierté.
Pour l'instant, le bourgmestre de la cité dure reste sur place, n'osant pas s'approcher, sans doute pris d'une stupeur à la vue du triste spectacle que tu offres maintenant.
Les rumeurs de la cour sont donc vraies. Vous allez partir pour les îles de fer, combattre pour votre vie et votre liberté.
C'est ce qui m'a été promis, vizir, oui. Et honnêtement, je ne sais pas si c'est vrai ou si je l'ai rêvé encore. Mais puisque vous m'en parlez, ça confirme mes espoirs.
Tu le vois se rapprocher, son visage qui est éclairé par la lueur de la torche, emprisonné dans l'applique au mur du couloir.
Il y a 4 ans, vous avez sauvé ma fille, vous et Sœur Kellan. Je serai toujours votre obligé. Elle a tenu à venir avec moi.
Le nom de Kellan vient d'être prononcé, Solomon. Prononcé par la bouche de quelqu'un d'autre. Peut-être lui donnant un aspect tangible, alors que tu n'as pas entendu son nom être prononcé par autrui depuis tout ce temps.
Solomon, il y a les larmes aux yeux qui vont commencer à monter. Vizir, je suis pas sûr que c'est un endroit pour votre fille, ni qu'elle devrait me voir ainsi.
Une frêle silhouette avance lentement, pour elle aussi s'offrir à la lueur des torches. Sheena s'approche des barreaux. Frère Solomon, ses deux mains fines viennent s'agripper aux barres de fer. Une lueur étrange brille dans ses yeux. Est-ce que tu détournes le regard, Solomon, ou tu capes cette lueur?
Non, Solomon va tourner la tête, toujours honteux d'être présenté dans cet état-là. Vous devriez pas être ici, c'est pas un endroit pour la fille d'un vizir.
Je tenais à vous revoir, frère Solomon. Sa voix est chevrotante. Tu sens toute l'émotion qui s'en dégage. Arundi tend son bras et son poing entre les barreaux.
J'ai conservé pour vous votre bouclier et votre marteau d'armes, mais vos gardes me les ont confisqués. J'ai pu cependant leur cacher ceci.
Il déplie ses énormes doigts boudinés, révélant un médaillon accroché à une lanière de cuir. C'est un triangle de métal léger comme une plume, un objet que tu as porté pendant plus de 5 ans avant d'être emprisonné. Le bijou qui t'a permis d'être en lien avec le défunt Caliban, l'esprit qui t'a initié à la ténèbre, la magie.
Je tends un regard vers l'entrée de la pièce, m'assurant qu'aucun garde ne jette un œil. À ce moment-là, je m'empare de l'amulette et merci pour tout. Vous n'avez pas à faire tout ça, vous savez. J'ai été un envahisseur chez vous et je comprends pas votre générosité en ce moment.
La façon que vous avez traité nos gens à l'intérieur des murs. Je ne suis pas dupe, frère commandant. Si un autre avait été à la tête de vos armées dans ma cité, mes gens n'auraient pas de si. Vous avez fait en sorte que cette guerre soit moins pénible pour tous.
Et là, il met un bras autour des épaules de sa fille.
Et vous avez fait en sorte que ce qui m'est de plus précieux sur cette terre soit toujours près de moi.
Son visage s'assombrit quelque peu.
Vous avez une chance de recouvrer votre liberté, frère commandant. Mais prenez garde. La rumeur de votre survie et de votre départ amène une autre rumeur. À prendre vie et enfler à travers les salons de thé. Plusieurs fidèles de notre défunt roi Abid le Bon voudraient vous voir mort.
Tu vois le vizir considérer les barreaux, les observant.
Cette cellule et le secret qui l'enveloppait avaient sans doute pour but de... aussi de vous protéger. Le roi Azim a dû voir quelque chose de précieux en vous. Heureusement.
Il est certain que... si on m'envoie un duel sur les îles de fer, c'est que votre roi a quelque chose à y gagner. Et s'il m'a maintenant en vie, c'était probablement en attendant ce jour.
Quoi qu'il en soit, je tâcherai d'être là à votre départ, sur les quais. C'est prévu dans quelques jours.
Il passe l'une de ses grosses mains à travers les barreaux.
Solomon, ayant repris un peu confiance en lui avec l'explication du vizir sur le pourquoi il est venu le voir et tout ça, là, du fait qu'il les a bien traités, puis comprend un peu plus la situation et va serrer la main du... Il va s'essuyer la main sur lui avant de serrer la main du vizir.
Très bien. On sent toute la reconnaissance de cet homme. Et là, est-ce que tu as le courage de croiser le regard de Shina, sa fille?
Oui, parce que je veux également la saluer avant qu'elle parte.
Et là, c'est là que tu captes cette lueur étrange dans ses yeux. Cette brillance. Ouais, on va analyser une situation.
Et
parce que c'est de déduire des choses et de faire des liens.
J'ai 7 de Héna.
7 de Héna. Tu vas me faire ça à 70.
31.
C'est une réussite totale. Écoute cet éclat dans ses yeux, dans la jeune femme, qui a maintenant peut-être 19 ans. Tu as déjà vu ça. Cette tête-là, tu l'as déjà vue dans les yeux de Kélan. C'est de l'amour. Est-ce que la jeune femme t'a idéalisé, toi, son sauveur? Est-ce qu'elle t'a fantasmé? Est-ce qu'elle a nourri tout ça pendant 4 ans de temps? Mais c'est une réussite totale et... ça va peut-être au-delà du simple amour. C'est très intense. Nous nous reverrons, frère Solomon.
Ah, il n'y aurait pas eu la cage, il y en aurait un qui aurait pris cher. Hein.
Ça, c'est ce moment-là qu'elle flash puis qu'elle quitte. Non, ça se fait pas.
Non, mais écoute, on remet l'annonce du bouteille.
C'est exactement comme ça que je l'avais vu, moi.
J'ai juste dit tout haut ce que tout le monde pense.
Mais là, écoute, le fait que ce soit Andréane qui l'ait amené, ça passe, là. Curieusement, ça passe.
C'est ça qu'on veut voir. Elle sait parler aux spectateurs.
Solomon va les saluer, relevant pas plus qu'il faut, ce qu'il a remarqué, parce qu'évidemment, s'il y a quelque chose de plus que de l'amour, ils se connaissent même pas, c'est à peine si Solomon y avait déjà prononcé quelques phrases en sa présence de par le passé, donc il est certain que dans sa tête, elle sait pas vraiment qui il est, puis probablement que des romans ou des bardes sont venus ajouter des choses dans tout ça, là.
Effectivement, c'est sans doute son premier amour de jeunesse, et là, il vient de ressusciter. Et tu le sens, c'est pas faible. Et là, tu vois le couple, le père et la fille... regagner les ténèbres au-delà de la torche. T'envoyer un dernier salut.
Kenan va avoir de la compétition.
Dis-moi, alors que tu es seul, tu as dans...
Ouais, ben, si je sais que les soldats viennent pas souvent, effectivement, je vais... Je vais m'employer sur le médaillon. Hein.
Qu'est-ce que tu fais avec le médaillon?
Je vais commencer par le mettre autour de mon cou, puis le serrer dans mes mains et me concentrer sur...
Ça va être automatique. Aussitôt que tu mets le médaillon, devant toi, la silhouette du vieux Caliban apparaît. Plus tangible que jamais. Alors que sa silhouette est toujours un peu translucide, diaphane, cette fois-ci, tu l'aperçois comme s'il était littéralement devant toi, debout, les mains jointes devant lui.
« Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait, mon garçon? Ils t'ont fait la pire des choses. Ils n'ont rien fait. Il aurait mieux fallu t'enchaîner à des rames d'une galère. Ton corps physique ne serait pas mort, lui, au moins. »
Tu vois qu'il hoche de la tête, un peu débité de te voir dans cet état. C'est une autre voix que tu n'as pas entendue depuis longtemps. Une espèce de mentor qui t'a toujours guidé. Est-ce que tu pourrais croire, Solomon, que c'est une manifestation des défunts ou c'est tu crois vraiment au retour de Caliban?
Non, je crois vraiment au retour de Caliban. La preuve en est le médaillon que j'ai autour du cou. Mais je me dis que je peux lui parler en toute liberté parce que les gardes seront pas surpris de m'entendre parler tout seul.
Effectivement, ce qu'ils vont entendre, c'est des éternels murmures. Et là, tu vois, un peu découragé, il vient s'asseoir sur la rude et solide couchette qui te sert de lit. Il te considère, te jauge de la tête aux pieds. Ah, je sens la ténèbre dans ses menottes.
On m'a privé de son utilisation depuis plus de 4 ans. Maître Caliban. Et ils ont l'intention de m'envoyer affronter un homme en duel afin de regagner ma liberté. Je crois que je vais avoir besoin de vous plus que jamais.
Il faut rapidement te remettre sur pied, et pour le corps physique, et pour ton lien avec la ténèbre, et pour ça, rien de mieux que de passer par le langage ultime de la magie, le langage des anciens.
Tu vois Caliban se redresser, comme un jeune adolescent tout excité. Il ouvre tout grand les bras en croix, dans un geste théâtral, et soudain, ta cellule s'illumine d'un alphabet inconnu, des lettres dorées et luminescentes qui flottent partout autour de toi.
Il est temps de recommencer sérieusement tes leçons, jeune Solomon.
Et là, on a cette caméra sur ton visage, et qu'est-ce qu'on capte de Solomon alors que c'est comme s'il retrouvait une partie de son passé dans cette simple rencontre?
De l'excitation, c'est ça qu'on va y lire, et Solomon va sourire de retrouver Caliban et de voir enfin les choses évoluer pour vrai.
On va voir cette caméra qui capte cet instant d'espoir et de joie sur ton visage, Solomon, hein, lui qui en a peu connu, disons-le, ces dernières années. On va voir cette caméra qui recule et passer à travers l'unique ouverture de ta cellule qui donne sur l'extérieur, une minuscule fenêtre entravée de barreaux de fer. Elle donne sur le sable de l'arène. La caméra recule, passe dans cette fenêtre, et recule, recule encore, jusqu'au moment d'embrasser l'entièreté des ruines du Colisée. Au loin, maintenant, on voit la faible lueur de l'alphabet des anciens bâtisseurs qui éclaire la petite fenêtre de ta cellule. Sur une dune de sable, accroupie, une silhouette est étendue sur le ventre et observe l'étrange phénomène de lumière dorée. Un arc est accroché à son dos et un carquois pend à sa ceinture. Et un murmure s'échappe de ses lèvres, dissimulé sous un foulard.
Vengeance!
Chapitre 2. Quand la ténèbre s'en mêle.
Dans la riche villa des Caramanes, dans les quartiers bien nantis de la cité de Nippur, de nos héros. D'abord, Ygritte, qui a fait la connaissance il y a à peine une heure de Mahmoud et de Kenan. Et bien que le point central de cette scène soit cet énorme cercle de sang, et en son centre, un fils qui serre le corps de son père, livide et mort, la caméra décide néanmoins de s'attarder sur Ygritte, une guerrière guanac qui vient des terres sauvages du nord de Babel et qui est présentement témoin de la triste scène. C'est la première fois que tu mets les pieds dans une pareille demeure, Ygritte, toi qui vis avec une tribu en partie nomade, qui s'abrite normalement sous une tente. Tout autour de toi, ce n'est que beauté, art et abondance. Des chandelles immenses qui pleurent des larmes de cire et qui dégagent des doux parfums, soit de fleurs, soit d'épices. Des objets de verre, de toutes sortes de couleurs, qui emprisonnent la lueur des chandelles et qui les projettent dans la pièce comme le feraient des aurores boréales. Des meubles partout, richement ornés par des mains d'artistes sans doute passionnés par leur métier. Et des étoffes avec des couleurs que ne peut même pas contenir l'arc-en-ciel. Oui, un drame se joue devant toi, au sol, mais le merveilleux s'y mélange, et la colère aussi, en sourdine, qui brûle encore au creux de ta poitrine, suite au combat de la soirée. Elle gronde en toi. Je te mets pas dans un dans un esprit très facile, Ygritte, hein? C'est le drame, les merveilles et la colère, un curieux mélange. D'abord, il y a une façon, on pourrait parler des états émotionnels, d'évacuer ces états émotionnels, de s'en décharger. Pour s'en décharger, on peut se confier, se coller à sa famille, parler avec des amis, méditer. Mais aussi, on peut s'adonner à ses vices, ses faiblesses. Et toi, l'un de tes vices, Ygritte, c'est ce qui te plaît, tu le prends. La notion de possession là est très large chez les Guanac, dans le sens que lorsqu'un objet rentre dans votre tribu, ben elle appartient à tout le monde. C'est une des options que tu as. Je te mets face à toutes les possibilités que tu as, alors que tu vois ces merveilles, tu as une colère qui est en sourdine en toi, et tu vois cette scène de Kenan, ce jeune homme qui serre son père ensanglanté contre lui, et tu as un Mahmoud qui est à côté de toi, qui lui est stupéfait, figé à la vue du cadavre de l'ex-commandant Bérine et de la détresse de son meilleur ennemi, meilleur ami. Que fais-tu, Ygritte?
En fait, Ygritte, elle est pas vraiment dans son élément en ce moment, parce qu'elle a les sens à vif. Toutes ces odeurs-là, tous les bruits, les couleurs, c'est pas quelque chose dans laquelle elle est à l'aise, qui va venir, ça la rend plutôt, ses sens aiguisés font que tout ça, pour elle, c'est tellement trop, c'est tellement intense, que c'est pas quelque chose d'agréable.
Donc, il pourrait avoir une forme de nervosité, là, entourée, comme tu l'es, de cet environnement que tu sens, que toi, tu juges hostile?
Oui. Oui, Ygritte, en ce moment, elle est pas dans son élément. Là.
Très bien.
Au milieu de cette grande flaque de sang, elle se sent pas chez elle, Ygritte?
Ben, en fait, c'est ça. Elle se focus étrangement sur qu'est-ce qu'elle connaît, c'est-à-dire un cadavre, une mare de sang. Puis elle va s'en approcher en posant des questions.
Je la vois bien commencer à s'accroupir dans la flaque, en fait, et commencer à se baigner du sang de...
Ouais, ben, tu sais, faire un peu des symboles, tu sais, mettre du sang sur ses doigts, puis mettre... peindre son visage de sang comme si...
Kenan?
C'était de la peinture, finalement.
Kenan, pour un Uridzi, je trouve que t'es rempli de préjugés envers les nations Guanac. C'est ce que t'as appris tes livres?
C'est exactement ce que j'ai lu, que justement, c'était des personnes qui adoraient ça, le sang, les sacrifices, et puis qui faisaient beaucoup d'incantations autour de ça, donc...
Ça pourrait être la façon à Ygritte de lui rendre hommage, là, comme si c'était un guerrier tombé au combat,
sur toi, afin de pas l'oublier, genre.
Ouais, c'est ça.
Chez les Guanac, j'imagine que la notion de meurtre, ça existe pas vraiment. Et...
Non. Ben, tu sais, c'est pas vraiment un meurtre, là. C'est des combats. S'il y a quelqu'un
qui tue quelqu'un d'autre, c'est ça se fait dans le respect, dans les coutumes, puis il n'y a pas je te tue. Non, c'est vraiment...
Ben, les tribus sont rivales, donc il y a beaucoup de guerres entre tribus. Donc, la mort fait partie de leur quotidien, mais justement, le meurtre habituellement, pas tant. Quoique, Ygritte a été témoin du meurtre de son petit frère et de son beau-père alors qu'elle était jeune. Alors, si tu permets, on voit Ygritte s'approcher lentement de la scène et du sang, mettre un genou au sol... et appliquer un doigt dans le sang. Et tu prends ton doigt et tu viens te faire un genre de symbole au front. Kenan, sans doute que tu es peut-être un peu dans ta bulle alors que tu serres ton père contre toi. Tes vêtements sont recouverts de sang, non pas le tien, mais celui de ton père. L'homme que tu chérissais, mais que ton entrée dans l'adolescence a totalement éloigné de toi, lui dont la vie a basculé il y a 4 ans après l'invasion du Dominion sur vos côtes. Ton père, Beryn, qui était plus l'ombre de lui-même, c'est quoi le sentiment que tu as présentement? Et alors que, sans doute qu'on entend sourdine la voix d'Ygritte qui te parle, est-ce que tu l'entends ou qu'est-ce qui se passe dans la tête de Kenan en ce moment?
Non, Kenan n'entend pas du tout. Il est complètement absorbé dans ses pensées. Je pense qu'il est complètement perdu par tout ça parce qu'il comprend pas bien. Effectivement, c'est pas forcément son père. C'était pas forcément une personne dont il adorait les principes. Mais c'est surtout le fait qu'il ait trouvé une dague sur lui et cette impression de trahison, en fait, qui... Il se pose des questions à propos de ça.
Ouais, la dague de Zipha.
Il a du mal à comprendre parce que... Peut-être que Zipha n'était pas le meilleur ami de son père. Son père le rappelait souvent à l'ordre parce que Zipha avait tendance à être un peu trop proche de Kenan et... Son père se doutait de quelque chose, mais de là à le détester à ce point ou à devoir se venger de quelque chose, ça, il n'arrive pas à reconnaître Zipha dans cet acte. Il se pose beaucoup de questions.
Et la mort de ton père, comment vient-elle t'affecter?
Bah, c'est assez bizarre parce que c'était d'un côté, Kenan s'y attendait un petit peu, et puis c'est peut-être un peu d'un côté la fin d'une souffrance, parce qu'il a quand même... était effectivement plus que l'ombre de lui-même depuis quelque temps. Mais c'est aussi c'est assez terrible pour lui parce que il se retrouve en fait seul d'une certaine manière. C'était pas forcément le père qu'il aurait voulu avoir, mais en même temps il se retrouve seul dans cette ville-là maintenant à devoir sans doute gérer tout ça. Puis Kenan est jeune, il a encore aucune idée de qu'est-ce qu'il va devenir ou qu'est-ce qu'il va faire là. Donc je pense que c'est plus un sentiment d'isolement qu'il a en ce moment.
Tu sens une main se poser sur ton épaule. Tu reconnais peut-être la présence du compagnon qui est toujours près de toi, Mahmoud. Et Ygritte, toi, tu t'es rendu à environ... une vingtaine de questions qui ne trouvent pas de réponse. Et tu as Mahmoud qui lève la tête vers toi, Ygritte, alors qu'il a une main sur l'épaule de Kenan. Il te fait signe non de la tête, en voulant dire que ce n'est pas le moment où tu n'obtiendras pas de réponse maintenant.
Au moment où Mahmoud pose la main sur mon épaule, à ce moment-là, je vais... ça va comme me sortir un peu de cette transe où j'étais complètement isolé de mon côté. Je vais poser une de mes mains aussi sur sa main à ce moment-là, qui est posée sur mon épaule. Donc ça fait comme une chaîne, presque une tour en fait, une tour de Babel, je dirais. Je vais poser ma main sur sa main et puis je vais lui dire « Mahmoud, je comprends pas, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer ?»
Et là, lui, à la vue de la dague, parce qu'il ne la voyait pas d'où sa précédente position. Et là, il la voit. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être le vieux Zifa. Et là, tu sens non, ses mains se sont comme crispées à l'intérieur et sur ta main.
Non, c'est pas possible. Je peux pas le croire.
Irit, tu es sur le qui-vive. On le dit, tu t'es pas bien dans cet élément-là. Tu vas me faire un jet de jauger l'environnement. Tu as combien en niveau d'action? C'est sous perception.
Je vais te dire ça. J'ai 6.
Ce qui est quand même bien pour jauger. Tu vas me faire un jet à 70.
Hein? Je crois pas à ça.
Ouais, des fois on est gentil à Babel. C'est pas toujours... vous avez tous une mauvaise opinion de cet univers. C'est terrible.
Le moindre cadeau, on s'attend à ce qu'il nous revienne encore plus en pleine face quand on va se tromper.
Pleine figure.
J'aime pas
26,
trop ça. Mais
c'est 26,
hey, c'est une réussite totale. Alors que tu te sens aux aguets des sons de pas, et tu le sais, plusieurs personnes sont entrées dans la villa.
Allons faire un tour dans les rues, si vous voulez bien.
Nous sommes maintenant dans les rues sombres, des quartiers de classe moyenne de Nippur, à mi-chemin entre le port et la villa des Caramanes. Cal, tu as laissé la demeure du vieux Zifa, le précepteur de Kenan, qui t'a promis de rechercher lui aussi le jeune homme de son côté. Puis, te souvenant du rouleau que tu as trouvé près du corps de Bérin, ton ami, ton frère d'armes, tu t'es installé sous un poteau, du haut duquel une lanterne protégeant une chandelle éclaire faiblement la rue. La caméra pourrait peut-être se superposer à ton regard, et l'on voit la lettre par tes yeux, les derniers mots. Adieu, mon ami. De ce monde, je ne regretterai que ton affection et Kenan. Et derrière toi, une porte qui claque. Zifa sort de sa demeure. Dans cette lettre, Cal, on avait une demande et un dernier commandement. La demande étant d'accompagner Kenan, une année avec le frère Solomon, car Bérin est à la conviction que le frère commandant remportera son duel judiciaire sur les îles de fer, et un dernier commandement, faire en sorte que Zifa ne corrompt pas d'autres jeunes âmes dans la cité de Nippur.
Prends le temps de le regarder longuement. Lui dit, croyez-vous savoir où est le jeune Kenan?
Je vous l'ai dit tout à l'heure, capitaine, je n'ai aucune idée. En ces heures si tardives, oui, je connais le jeune seigneur, mais pas davantage ses activités. Mais je crois que deux personnes valent mieux qu'une, donc je vais faire mes recherches de mon côté.
Et là, tu vois qu'il tente de hâter le pas.
Je l'attrape par le bras, je dis... Avant que je ne parte, pourriez-vous me donner à boire?
La nervosité de Zifa est palpable. Alors que ta main se referme sur son bras frêle, tu sens les tremblements sous tes doigts. Tu vas me faire tu as combien de niveaux d'action dans analyser une situation calme?
Analyser une situation. Alors, j'ai 5.
5, tu vas me faire ton jet à 60%. Donc, on vise moins que 60, idéalement.
Aussi. Oh! Eh bien, 0,7.
Oh! C'est une réussite totale. Alors que tu as agrippé le bras du vieil homme, il y a quelques liens qui se font dans ton esprit. Si Bérin... Ton ancien frère d'âme t'as révélé que Zifa a entraîné le jeune Kenan dans la voie de la ténèbre, la magie, de la manipulation de l'esprit, c'est que Zifa lui-même a ses dons et ce lien avec la ténèbre, ce qui peut être très dangereux. Donc, sans doute que c'est un pas très motivé et sur le coup de l'impulsion que tu es allé agripper son bras, mais alors que tu as agrippé et que vos regards se croisent, peut-être que cette idée-là commence à s'imbriquer dans ton esprit, que tu as beau être une des plus fines lames du royaume de la côte de Mezzo, mais un enténébreur, il lui suffit de souffler quelques mots, il pourrait te brouiller l'esprit.
J'ai présentement une condition qui m'amène quand même à aller de l'avant. Je suis contrarié, furieux, destructeur, donc ça va prendre des sacrés remparts pour arrêter un ouragan.
Zifa n'est pas fou, il sent l'étau se refermer sur lui et lentement tu vois qu'il lâche prise et qu'il se laisse tirer vers la porte de chez lui.
En fait, moi j'attends. Je le laisse évidemment aller parce que les règles Mezzoan amènent une personne à vous offrir son hospitalité et non un invité à prendre cette hospitalité-là. Donc, il doit passer devant moi.
Est-ce que son bras est toujours emprisonné dans ta main?
Non, non, non.
Très bien. Donc, tu l'as seulement agrippé pour l'arrêter. Alors que tu relâches ta prise sur lui, il traîne ses pieds fatigués jusqu'à la porte de bois qu'il déverrouille. Il pousse lentement la porte. Il a laissé la chandelle sur la table. Et une des premières choses que tu peux voir alors que la porte est ouverte, c'est que les manuscrits, les parchemins qu'il consultait alors que tu es entré pour la première fois dans sa demeure, sont en train de brûler dans l'âtre de la cheminée.
Avec un plan de vue latéral, on me voit pénétrer dans la maison. La main sur la garde de mon cimetière, la garde massive de mon cimetière. Et déjà le cimetière, lorsque je pénètre, est déjà sorti de quelques pouces de son fourreau. Sans même lui laisser le temps de se retourner. Lorsqu'on va être à l'intérieur, je vais l'embrocher violemment par le dos, en le retenant par le haut du collet. Mon cimetière va dans le but que mon cimetière le traverse de part en part.
Mmh. OK. Et là, ça va se passer très, très vite. On va voir si ta lame est plus vite que la ténèbre. Tu as combien de niveaux d'action en arme blanche, sous agilité?
J'ai 8.
T'as 8.
À deux cimetières. Non, je n'ai pas 2 cimetières présentement.
Non, à 2 cimetières, tu montes à 9. Mm-hmm. Et ça aurait été franchement bien parce que ça t'aurait donné un 10%. Mais la scène n'est pas... n'y s'y prête pas. T'as vraiment une main qui agrippe. Ta main qui agrippe, est-ce qu'elle lui agrippe le cou?
En fait, la façon que ça va se passer, c'est que lorsqu'on va pénétrer, moi, je vais entrer en arrière de lui, et à la seconde où mon deuxième pied a franchi le seuil, je la grippe par le collet de sa tunique, si on veut, là. Je le tire violemment par en arrière, et de mon bras droit, le cimetière vient l'embrocher. C'est le plan.
Très bien. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui... Le geste est trop prompt, trop décidé. T'es animé par ta colère aussi. À moins d'être vraiment malchanceux, ton jet se fait à 90%.
Allons-y.
Et tu l'entends murmurer: « Vole, vole à mon secours. »
95, sérieusement. comment je peux utiliser une condition stress, émotion et tout ça?
OK, on avait statué que tu étais déjà à deux états émotionnels. Tu as la possibilité, Danny, de faire en sorte que Cal en récolte une troisième. Ça va te donner la possibilité de retirer ton jet, effectivement. Oui. Mais attention, il faut que ça soit le coup décisif, parce que après ça, lorsque tu as trois états émotionnels, tes émotions ont pris le pas. Alors que lorsque tu en as un peu, ça peut t'aider, mais lorsque tu en as trop, ça te nuit. Ça veut dire que si tu retires ton jet, si tu prends ce troisième état émotionnel, tu vas avoir une pénalité de moins 10 sur tous tes jets après.
Allons-y.
On y va. On prend un troisième état émotionnel qui serait lequel?
Probablement désespéré, déprimé, épuisé.
Très bien. On doit sentir tout ça dans les yeux de Cal. Je te laisse aller.
71.
71, c'est parfait. Écoute, c'est une réussite partielle et tu as la possibilité d'avoir une réussite totale en payant un prix, en faisant un sacrifice. Et comme tu as une pénalité de moins 10... du fait que t'es trois états maintenant émotionnels, c'est-à-dire que là, t'es vraiment pris dans un cercle d'enfer au niveau émotionnel. Je sais pas. Les autres, qu'est-ce que vous suggérez à Danny, à Cal?
Et moi, juste avant, j'ai une petite question. Ouais. Est-ce que le fait, justement, d'avoir tué l'ennemi de mon ami, potentiellement celui qui a perverti ses dernières années de vie à cause de son influence sur son fils, est-ce que ça peut régler le contrarié furieux destructeur?
Hey, une pierre d'un coup, pourquoi pas? Et effectivement, le fait d'avoir répondu à l'une des deux demandes de Bérine dans sa dernière lettre, effectivement, je serais partant pour ça. Et à l'autre question, à savoir, est-ce que tu prends une réussite totale en faisant un sacrifice?
Oui.
Que serait-il? Quel serait le contre-coup pour que ta lame passe part en part de l'estomac du précepteur?
Ça pourrait être que ce que le précepteur est en train de faire aboutisse.
Ben moi, je voyais bien, en fait, Kenan qui est relié à Zifa. Par la pensée, et lorsqu'il arrive quelque chose à un des deux, l'autre est au courant. Donc je sais pas, je verrais bien, en fait, au moment où la lame pénètre le corps de Zifa, que Kenan ressente la même chose et arrive à observer ce qui se passe à un bref instant, qu'il soit au courant.
J'adore ça.
Peut-être que ça pourrait nuire à Cal qui justement veut essayer d'être ami avec Kenan et puis l'aider, mais en fait Kenan va déjà tout savoir, quoi.
Est-ce que tu acceptes? C'est toi qui as le dernier mot, Cal, comme prix à payer.
J'accepte. Dans mesure où, en fait, il me voit pas. Je pense que ça serait bien, c'est que à ce moment-là, ben, peut-être y aller avec cette option-là que Kenan, étant donné qu'ils sont liés, ressentent toutes les dernières émotions.
Très bien. Donc, il pourrait peut-être voir un peu par les yeux de Zifa et ressentir ses émotions?
Ça me va.
Et on se retrouve dans la villa des Karaman. Je te laisse la caméra, Kenan.
On va retrouver Kenan qui est toujours agenouillé auprès de son père, en train de parler à Mahmoud, toujours de s'étonner... de qu'est-ce qui s'est vraiment passé, et c'était impossible que ça soit Zifa. Et je pense qu'au moment où il dit non, je crois pas que ça soit, c'est pas possible, c'est pas Zifa, Kenan va être pris d'un énorme mal de ventre, hein. Une douleur intense, aiguë, qui va le transpercer de part en part. Ça va le pousser à s'écrouler sur le corps de son père et à crier de douleur. À ce moment-là, dans la tête de Kenan, il sait très bien qu'est-ce que c'est que cette douleur. sa douleur est teintée du prénom Zifa. Il sait que tout ça, toutes ces ondes, c'est dans sa tête et ça vient de son précepteur qui est en train de mourir.
Ygritte, alors que tu viens de percevoir que des présences sont en approche à l'intérieur même de la villa, tu assistes à cette scène. Que fais-tu?
C'est certain que je vais prévenir peut-être rapidement Kenan, vu que c'est le seul à tant pis, ça me comprendre. Puis je vais me mettre en position de... comme un peu pour être embusqué d'où viennent les pas. À être caché, mais prête à bondir si jamais c'est des problèmes.
Quatre soldats arrivent dans la pièce. Armure argentée, vêtements noirs, mais surtout le visage couvert d'un masque de fer, qui ne laisse aucun doute pour Kenan et Marboud. Ce sont les immortels, les gardes du corps personnel du roi Azim le Hardi, garde qui a vu le jour quelques semaines après la mort du roi Abid, suite à l'échec de ton père à le protéger, Kenan. Derrière eux, telle une ombre, une autre silhouette. Un homme drapé d'une longue toge qui évoque les couleurs d'un ciel nocturne et qui semble littéralement glisser sur le plancher pour venir se placer entre eux. Sur sa peau, des centaines de lettres et de symboles dorés, comme si sa chair avait été tatouée d'or liquide. « Je suis un modeste conseiller du roi, venant vous transmettre un ordre de sa part. » Jeune maître Kenan. Tu le vois soudainement tressaillir. Il vient de remarquer le sang qui recouvre la plupart de tes vêtements et le corps au sol. Par Nanu, Dieu des dieux, est-ce là votre père? Et là, tu le vois s'approcher et se pencher sur son corps. Laissez-moi voir si je puis faire quelque chose. Que fais-tu, Kenan?
J'étais comme en position là de pleurs et d'apitoiement, et je vais complètement changer de face en voyant ces deux personnes et essayer de ne pas montrer ce que je ressens, rester complètement de glace face à eux. Je vais les regarder, mais je vais pas pouvoir dire quelque chose. Ça va être au-dessus de mes forces, donc je vais juste me relever et puis m'écarter pour le laisser s'approcher.
En fait, tu as quatre immortels qui, eux, restent derrière à regarder la scène.
Je me nomme Moon, conseiller du roi. Hélas, je ne puis rien faire pour ton père.
Tu vois qu'il a comme glissé sa main à un pouce du corps de ton père, comme pour sentir quelque chose.
Mes condoléances, jeune seigneur Kenan.
Il se relève et tu sens toute l'énergie. Il y a quelque chose qui émane de cet homme. Est-ce que tu as lu assez pour comprendre que l'apparence de cet homme fait que c'est sans doute un enténébreur?
Oui, Zifa m'en a parlé.
Tu le vois légèrement secouer la tête. La condition de votre père fait en sorte qu'il ne peut avoir de funérailles publiques qui représentent ses hauts faits d'armes. Mais la cour s'occupera de tout avec une cérémonie plus intime. Cela vous va?
Et là, il vient mettre une main sur ton épaule.
Désolé, je préfère m'en occuper moi-même.
Au contact de sa main sur ton épaule, t'as presque senti ce passage comme de l'électricité, comme si cet homme dégagé avait un aura qui était palpable.
Ah, que de tristesse de découvrir cette scène, Seigneur Kenan. Mais je suis ici pour vous transmettre un ordre.
Vous avez été mandaté pour être le scribe archiviste qui sera témoin du duel judiciaire entre le frère commandant Solomon et le champion des îles de fer, le capitaine Euron Swan. Voici une copie que le frère de la rondache devra signer. Il te tint un rouleau. S'il survit au duel, il sera libre. S'il meurt, eh bien, assurez-vous qu'il le soit vraiment. Couchez votre chronique sur papier, puis revenez à Nippur afin de gagner l'intérieur des terres et la capitale Sumeria. Et vous ferez directement votre rapport au roi.
Il te tend d'autres rouleaux et puis une bourse.
Voici une bourse replète qui couvrira amplement votre voyage et plus encore. Une grande carrière de scribe se dessine à vous, jeune maître Kenan. Tâchez de ne pas la gâcher. De gâcher votre carrière, comme l'a fait votre père.
Il dit ça pendant que le corps est encore chaud, tu sais.
Effectivement.
Ouais, c'est ça. Hein. En temps normal, Kenan aurait pris cette proposition, s'en foutrait complètement de cette proposition et... Mais là, au vu de ce qui se passe, il est complètement démuni. Donc il va juste prendre machinalement tout ce que Moon lui tend. Et il va quand même garder son petit tic et donner et se dépêcher de tout donner à chaque fois à Mahmoud derrière lui pour qu'il ramasse toutes les affaires.
C'est un Mahmoud très nerveux qui s'est approché, qui ne lâche pas du regard Moon. Toi, Ygritte, qui est dissimulé, oui. Tu vois toute la scène.
Oui, et en fait, la question que je me pose, c'est Ygritte est très au courant de qui est Solomon, reconnaît son nom malgré qu'elle a absolument rien saisi du langage dans lequel Moon puis Kenan communiquaient. Là.
Aucunement, mais le nom de Solomon t'a fait tressaillir, effectivement.
OK. Donc, c'est certain qu'elle va sortir de son ombre au moment de la fin de leur discussion, lorsqu'elle va voir Moon peut-être être sur le point de quitter, puis elle va lâcher un cri en direction de l'homme en criant « Est-ce vous, Caraman? »
OK, on va garder ce segment sous le coude. On va laisser Moon okay. faire quelque chose avant. Comme tu as dit, lorsque tu vas voir Moon s'apprêter à partir, c'est là que tu vas surgir de ta cachette. Oui. Moon va faire une dernière chose, Kenan. Tu le vois relever sa manche et avec deux doigts, l'index et le majeur, il touche différents symboles sur son bras. Et curieusement, chaque figure qu'il touche s'illumine d'un éclat doré le temps d'un battement de cœur. Et tu vois ses lèvres remuer comme murmurer.
Est-ce Kenan? Que je reconnais ces figures?
Non, aucunement. Ça ne te dit absolument rien. Tu n'as jamais vu ce langage dans aucun de tes livres. Et tu dois me faire maintenant un jet de force mentale. Combien as-tu en niveau d'action?
Je crois que j'ai... En mental tout court?
En force mentale. Force mentale.
J'ai
6. Ça sera pas facile, Kenan, pour un premier jet. Tu dois faire 20% et moins.
Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Tu donnes même pas d'espoir à tes joueurs, en fait.
Non, mais écoute, t'as assez déblatéré sur Babel. Maintenant, c'est les temps de payer, de passer à la caisse.
Ah, c'est le prix à payer pour avoir dit des bêtises.
32.
C'est chiant.
Ah, en plus, j'avais réussi presque. Dans un jeu normal, j'aurais réussi.
Dans un jeu normal... Kenan, mais au moins tu vas apprendre des choses. Tu le sens, tu sens cette emprise sur toi et tu sens tout l'effet de la magie. de cette ténèbre qui t'enveloppe. Et tu entends la voix de Moon.
« Vous devriez ne pas coucher ici ce soir et laisser les domestiques s'occuper du reste. » Et curieusement, à l'évocation de vos serviteurs, il y en a trois qui arrivent derrière les quatre immortels. Et là, il te remet une main sur l'épaule, Kenan. Et permettez-moi d'insister, la cour prendra en charge l'enterrement, les funérailles de l'ex-commandant Perrin Karaman. Et là, sans que tu puisses faire quoi que ce soit, tu hoches de la tête à l'affirmative. Et Moon tourne les talons et s'apprête à partir. Le signal pour Ygritte, quoi.
Ah oui, c'est le moment. En plus, elle vient d'entendre le nom qu'elle va crier.
Elle a entendu Karaman aussi.
Ouais,
Solomon ça, et Karaman.
Elle est quasiment sur le bord d'aller le prendre par les épaules puis de faire « C'est vous! Je vous ai trouvé! » Mais elle le trouve un peu creepy. Il sonne pédophile en plus, donc elle va s'abstenir, mais elle va simplement crier, comme je disais tout à l'heure.
Il s'en passe des choses.
Elle n'a pas besoin d'un jet de cerner le personnage, c'est un pédophile.
Donc, comme je disais tout à l'heure, elle va crier « C'est fou, Karaman! »
On voit Moon lentement, calmement se retourner. Il penche la tête de côté.
Vous venez de bien loin.
Et là, tu saisis ses paroles.
Ok, je le comprends.
Oui.
Il parle comme dans ma langue à moi, là.
C'est difficile à dire. Tu. T'en es de poser la question si cette voix-là résonne pas dans ta tête.
Est-ce que ses lèvres bougent ou...
Ses lèvres bougent, mais... semble pas vraiment synchro avec... les mots qui viennent percuter... ton cerveau en ébullition qui voit des pédophiles partout.
Je ne suis pas l'ex-commandant Karaman.
Et là, il tend un bras vers la dépouille au milieu du cercle de sang.
Oh...
Je suis très occupé, jeune Guanac. Je dois repartir auprès du roi Azim.
Et il s'en retourne.
Ygritte, elle ne bougera pas vraiment en séchant.
on veut pas voir vos niaiseries sur Miro.
juste avant que ça part trop loin cette histoire, les servantes étaient toutes majeures.
Voilà. un peu de stupéfaction, Ygritte, elle réagira pas trop, là. Elle va rester avec sa face un peu neutre, interrogative. T'sais. En fait, elle a toujours la même face, là. Quand même qu'elle soit heureuse, fâchée. Ou... fait que, tu sais, elle comprend pas trop ce qui vient de se passer, de quel genre de monsieur que c'est, mais. Elle continuera pas la conversation. Elle va juste faire « Ok, j'ai trouvé Karaman. Il est mort à terre en sang. Ça va pas bien. »
Et tu n'obtiendras rien de Kenan ce soir. Kenan va être comme lunatique pour le reste de la soirée. Et curieusement, il va suivre les conseils de Moon. Ne pas dormir à la villa cette nuit. Bon, maintenant de retour dans la demeure de Zifa, où la lame de ton cimetière, Cal, transperce l'estomac du vieux précepteur de part en part.
Une giclée de sang et surtout une chemise éventrée. On voit la chemise éventrée par le cimetière qui est à sa pointe, qui a peut-être une largeur de presque 15 centimètres. Tout l'ornementation de ce cimetière-là qui a été gagné après un combat, et c'est un des honneurs que Cal a, c'est toujours la possession de ce cimetière-là. À un moment donné, la progression de la lame est stoppée seulement par la garde qui vient s'appuyer fortement sur la colonne vertébrale du précepteur. Cal vient lui... vient juste lui chuchoter quelques mots à l'oreille avec haine et crachat presque. Il peut difficilement retenir sa colère. Sa main gauche se porte, lui lâche la tunique et s'en va agripper une mèche de cheveux qui préalablement il avait tout simplement frappé le chapeau, l'espèce de képi ou peu importe, et il va attraper une mèche de cheveux fortement dans ses mains alors que le précepteur est en train de se noyer dans son sang. Le cimetière sort rapidement un deuxième coup, cette fois-ci en taille vient on entend tout simplement un bruit rapide, un bruit sec. Et un corps vient s'effondrer au sol avec plusieurs giclées de sang.
On voit quelques secousses fouetter le corps du vieil homme. Et dans sa bouche ouverte, un gargouillis sanglant.
Tout est plus grand que vous, capitaine. Tout est plus grand.
Et tu le sens. Pour avoir vu la mort à 1000 reprises, Zipha est mort. Et à ce moment-là, le troisième état émotionnel que tu as pris, tu peux choisir celui que tu veux, sans peut-être la colère, vient se relâcher.
Les dernières paroles du précepteur sont... se fond dans une volée alors que sa tête, le restant de sa tête va rejoindre les preuves incriminantes qu'il avait préalablement mis au feu. Sa tête va rejoindre le foyer, roule sur ses papiers, laissant du sang comme si ses papiers étaient pas déjà assez profanes.
On voit peut-être les épaules de Cal se relâcher. Enfin.
Cal regarde quelques minutes la tête crépiter, ensuite finalement prendre feu, comme si il prenait le pas un peu de la situation. Il se demande vraiment, bon, là, il y en est où avec tout ça? C'est une étape, mais faut qu'il retrouve le gamin. Et ça rapidement, parce que comme un mauvais sentiment, quelque chose de... comme si quelque chose de d'important allait bientôt se dérouler. Il termine d'essuyer son cimetière dans les vêtements du précepteur, toujours laissé au sol comme... en fait, sans beaucoup de considération. Il ressort de la petite maison sans un regard en arrière, toujours à la recherche du gamin.
Et où compte aller Cal pour retrouver Kenan?
C'est une excellente question. En fait, je pense qu'on va voir le capitaine déambuler dans les rues en regardant un peu partout comme s'il cherchait peut-être une illumination, une épiphanie qui pourrait lui dire « voilà ». Mais présentement, il se rend compte qu'il connaît beaucoup moins son filleul qu'il le pensait.
Effectivement, tu es à l'image de Bérin, donc très peu de points en commun avec le jeune Kenan. Mais il est quand même tard en soirée. Minuit va bientôt sonner. On va te voir errer dans les rues. Aller poser des questions, ouvrir des portes, visiter des lieux.
Ça va se terminer dans une auberge non loin. Le capitaine n'a pas vraiment l'énergie ni l'envie de refaire tout ce chemin-là. Une journée qui a été épuisante. On le voit entrer dans une des auberges du coin où est-ce que... pour lequel il est déjà peut-être allé. Il se sent un peu plus en sécurité. Donc, il va juste prendre... réserver un lit et s'endormir comme si... s'endormir, en fait, au bout de quelques minutes, épuisé. Beaucoup plus... épuisé beaucoup plus mentalement que physiquement.
Donc, on te voit partir rapidement dans les limbes, relâché. Est-ce que ça va être un sommeil agité, quand même?
C'est un repos comme les autres. C'est un... Cal est un soldat. Et il n'est pas à son premier... sa première bataille. Il en a vu d'autres. C'est un mécanisme de défense. Peu importe ce qui va arriver, Cal va bien dormir parce qu'il sait que il peut pas se permettre de ne pas être au sommet de sa forme. Les doutes, les démons, les doutes et tout ça vont revenir avec le réveil.
Très bien. Alors que tu es au deuxième étage de cette auberge et que tu viens tout juste de souffler la chandelle pour plonger ta chambre dans l'obscurité, on a un cote et la caméra se trouve dans la rue, tout aux côtés de l'auberge. Elle est derrière un homme, une silhouette sombre, un homme vêtu de noir, encapuchonné, qui se tient au coin d'un immeuble pour se dissimuler et il observe ta fenêtre. Lentement, la caméra tourne autour de cette silhouette. Et on voit apparaître son visage. Il s'agit de Zifa, le précepteur de Kenan, l'homme que tu viens tout juste d'assassiner.